Santé Beaujolais d'Ombe.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité santé du territoire Beaujolais d'Ombe. Mon doyen de faculté aimait à me dire « On n'est jamais aussi mal desservi que par les siens ». Écoutons.
Ça lui évitera de confondre orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute. Et puis si vous n'avez pas la ref, je vous laisserai aller écouter notre émission sur le métier d'orthophoniste ou d'orthoptiste, les deux.
Oui, je trompe dans les deux cas.
Voilà, c'est ça.
Cher auditeur, que retenir de cette leçon ?
Qu'Alexandra se trompe moins.
Certes. Si comme moi, vous êtes rempli de 10, allez chez l'orthophoniste. Ça évitera ce genre d'écueil quand ça se passe. Donc, ceci étant dit, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, comme à l'accoutumée, sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS, et vous le savez également sur notre chaîne YouTube. Cette émission est produite par l'équipe radio de la Communauté professionnelle territoriale de santé et toujours animée par Alexandra.
Bonjour.
Que vous avez tout de suite reconnue. Et Marie.
Bonjour.
Ce qu'il y a de bien, c'est que là, elles vont se tenir à carreau.
Oui, parce qu'en plus, on a un petit mea culpa à faire auprès des auditeurs.
Ah bon ?
Parce qu'on avait teasé une émission sur les violences faites aux femmes. Et donc, on s'excuse parce que pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle n'a pas pu se faire... actuellement, et
aujourd'hui,
donc elle sera différée à un autre moment.
Voilà. Merci Marie pour ce message. Et on dit bien sûr bonjour à Amaury, qui est toujours bonjour. Au son. Aujourd'hui, on va prendre son pied. J'ai déjà pris mon pied dès le départ, hein, vous l'avez noté, mais on va le prendre un peu plus, et puisqu'on va parler des podologues. Alors cette profession est née en 1928, en fait finalement un peu plus ancienne que les autres professions paramédicales, en mettant évidemment de côté nos infirmières, excusez-moi. Il fallait que je la passe, je commence
fort. C'était pour parler des orthophonistes et des orthoptistes, c'est ça,
Donc cette profession donc de podologue est née en 1928. Avec l'arrivée d'un syndicat en 1935, ce qui prouve en fait que cette profession était déjà bien organisée. À ce jour, les podologues sont bien sûr des professionnels paramédicaux reconnus dans le Code de la santé publique avec la présence d'un ordre professionnel. Dans cette émission, nous allons expliquer dans un premier temps ce que fait ce professionnel, quel est son quotidien. Puis nous verrons, la podologie, c'est bien sûr un métier essentiel, mais qui est encore pas suffisamment connu. Et donc on va vous le faire découvrir par cette deuxième chronique. Suivra après la troisième chronique, le déroulement d'une consultation et du soin dans le cabinet. Et puis on terminera avec les limites de la profession. Alors, pour en parler ce soir, nous avons l'extrême honneur de recevoir notre podologue attitré,
Rémi
Régal. Bonjour.
Bonsoir à tous.
On vous a pas trop fait peur avec ce début d'émission, là, parce que...
Non, ça va. Non, ça va. Okay.
Mais parce qu'en plus, il faut vous dire, chers auditeurs, il est tout seul. Donc, la pression est double pour lui. Donc, en tous les cas, un grand merci d'être présent ce soir. Et on va tout de suite commencer par la première question. Qui êtes-vous ?
Alors, je suis donc Rémi Régal, pédicure podologue, podologue du sport. Voilà, donc j'ai eu mon diplôme du coup en 2016 à l'Institut national de podologie à Paris. J'ai ensuite fait une formation complémentaire du coup un DU, donc un diplôme universitaire en podologie du sport. Donc ça, c'était en 2021. Et puis du coup, donc j'exerce sur Ans, sur la commune d'Ans. J'ai commencé dans le Beaujolais, à Belleville en Beaujolais au départ, et j'ai créé un cabinet sur la commune d'Ans.
Alors c'est quoi votre profession ? Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors le pédicure-podologue, donc c'est deux professions qui ont historiquement fusionné. Donc il y avait d'un côté la profession de pédicure et de l'autre donc la profession de podologue. Donc le pédicure, c'est plutôt celui qui apporte un soin local sur le pied du patient. C'est un soin instrumental, hein. On parle de pédicurie médicale, donc on traite tout ce qui est corps, durillon, callosité, ongles incarnés et j'en passe. Et le podologue est celui qui émet un diagnostic sur un trouble, ça peut être un trouble fonctionnel, un trouble de la posture, qui va éventuellement cibler une douleur et puis mettre en place un appareillage. Donc ça peut être une perte semelle orthopédique le plus couramment, ou d'autres appareillages, hein, on y reviendra peut-être, mais une orthoplastie, une orthonyxie, une attelle.
Il va falloir nous décortiquer tout ça, hein, parce que déjà, les noms, ça nous semble... Non, ça va, vous, mesdames ?
À peu près.
Ah, voilà, donc, ok, d'accord, ça continue, j'ai compris.
Et du avec et du sans, quoi.
Ok. Et donc, du coup, vous nous avez dit, donc, effectivement, que vous réalisez vous-même, on y reviendra après, hein, des orthèses, peut-on dire ça comme
oui,
ça ?
Oui, on parle d'orthèse plantaire pour une perte semelle orthopédique, par exemple.
Oui. Et donc, du coup, quelles sont les grandes pathologies que vous allez cibler ?
Alors, les pathologies...
En pédicurie.
En pédicurie,
en pédicurie,
oui. Ouais.
En pédicurie, donc, on a voilà, toutes les familles des hyperkeratoses qui sont, en fait, vulgairement la corne.
D'accord.
Donc, on a les callosités qui siègent au niveau du pourtour du talon. On a le durillon qui est plus souvent ciblé sur l'avant du pied. Et puis après, les corps qui peuvent être en plantaire, donc plutôt sous le pied, ou aussi assez couramment au niveau des orteils, donc soit en pulpaire, soit au bout de l'orteil, soit au-dessus de l'orteil, soit entre les orteils.
La différence entre le durillon et le corps,
c'est... Alors, le corps semble généralement plus profond, mais moins étendu. Généralement, le corps est plus douloureux que le durillon, quand même.
D'accord. C'est douloureux, autant le durillon que le corps.
Ah, okay. Oui.
C'est un motif de consultation, peut-être ?
Oui, c'est un motif de consultation récurrent, ouais, en pédicurie.
Okay.
C'est une douleur d'appui uniquement, ou ça peut être une douleur
c'est
statique ?
C'est dû à un problème de répartition de charge.
D'accord.
Qui peut être du fait d'un pied creux, par exemple, ou d'un pied valgus. Enfin, dès qu'il y a un trouble de la posture, ça peut créer ce type de problématique, quoi.
Mais le patient va avoir mal uniquement en marchant, ou il peut avoir mal aussi quand il est assis ou
non,
quand il est
plutôt
couché.
Une douleur
mécanique
donc à l'appui, en statique ou en dynamique en marchant.
D'accord, ok.
Vous voyez aussi des ongles incarnés, vous disiez ?
Oui, absolument. Oui,
Alors, en préparant l'émission, vous avez fait la distinction entre les ongles incarnés et les ongles incrustés.
Tout à fait.
C'est ça ?
En fait, l'ongle incarné, c'est en fait un ongle incrusté qui dégénère. Donc, c'est généralement à un stade où il peut y avoir une inflammation au niveau des bourrelets, voilà, un aspect un petit peu rougeâtre. Et puis, quand ça prend des formes plus sévères, du coup, un panari, un écoulement de pus, enfin, une trace infectieuse, quoi.
Le panari, ça va être l'infection qui est visible.
Ouais.
L'ongle incarné, c'est quand l'inflammation est autour, c'est ça ?
Alors, l'ongle incarné, en fait, c'est un petit harpon, un petit bout d'ongle qui fait pression et qui rentre dans la chair. Mmh. Souvent parce que soit il y a une mauvaise coupe d'ongle du patient, soit parce qu'il y a une déformation de l'ongle qui fait que.
D'accord. Et là, alors, le bon conseil pour couper ses ongles, c'est quoi ?
C'est... Alors, j'aime pas trop répondre à cette question. Il y a toutes les écoles.
C'est ça.
De manière générale, plutôt une coupe droite, sans trop arrondir dans les angles, s'il n'y a pas de souci. Si par contre, il y a une problématique de douleur au niveau des sillons, donc au niveau du bord de l'ongle, bah là, il faut dégager un petit peu plus. Donc, il faudrait avoir tendance à arrondir un petit peu plus jusqu'à ce qu'on soit soulagé correctement, quoi.
Quand on ne sait pas voir son podologue.
Exactement.
À quel âge est-ce qu'on peut consulter un pédicure podologue ? Vous recevez des patients de quels âges ?
Ça commence à partir de, grosso modo, 4 ans. Ouais. Ça peut être même avant. En tout cas, en podologie, il faut que la marche soit suffisamment acquise pour qu'on puisse diagnostiquer éventuellement quelque chose. Donc, je dirais à partir de 4 ans. Après, dans l'absolu, pour de la pédicurie, ça peut être vraiment tout petit, hein.
Il y a des ongles, parfois des ongles qui sont un petit peu, c'est un petit peu infecté pour des petits, hein, on voit ça parfois sur les tout petits
oui,
pieds.
Oui, alors après, il y a peut-être moins de problématiques d'ongles incarnés chez le nourrisson ou le jeune enfant, parce que l'ongle est moins épais, il est plus souple. Donc c'est pas quelque chose qui revient très fréquemment en pédicurie comme type de motif de consultation, la problématique d'ongles incarnés, ça. On le voit pas.
Vous voyez aussi des verrues, vous disiez ?
Des verrues, absolument. Plus facilement le jeune adolescent ou l'adulte, mais jeune aussi, ouais. Après, ça vient à tous les âges de la vie, mais plus facilement le jeune adulte.
Avant, on allait plutôt chez le dermato pour faire ça, pour brûler la verrue. Vous, votre technique, elle est un petit peu différente, je crois.
Alors oui, nous, on traite les verrues avec un kératolytique. Donc en fait, c'est un traitement plus ou moins à base d'acide qui se passe généralement en 4 séances.
Donc il faut revenir 4 fois pour traiter la verrue.
Sur des verrues plus petites, ça peut être moins. Sur des verrues plus importantes, ça peut être plus. Mais le traitement classique qui est fait chez, je pense, la plupart des confrères podologues, il se passe bien souvent en 4 séances. Ouais.
Et chaque consultation, quel intervalle entre chacune?
C'est variable. Ça dépend de la tolérance du traitement par rapport à la douleur, parce que le traitement peut être douloureux.
D'accord.
Ça dépend de la quantité qu'on administre à chaque séance. Et la réaction par rapport à la douleur est vraiment variable d'un individu à l'autre.
On y reviendra très certainement peut-être un peu plus tardivement dans l'émission. On a parlé des petits, donc des adultes aussi, bien sûr. Vous en avez parlé. Les personnes âgées?
Les personnes âgées, bien évidemment, oui.
Et donc là, quel type de pathologie?
Alors, on a en fait les personnes âgées qui nous consultent bien souvent pour plusieurs raisons. La première, c'est la difficulté éventuellement à se baisser et à atteindre leurs pieds tout simplement, parce qu'ils ont une prothèse de genou, prothèse de hanche, qui limite la flexion de genou ou de hanche. Ça peut être une déficience visuelle, qui fait que du coup, on ne voit pas forcément bien, notamment ses pieds. Et puis après, pour des motifs vraiment variés. Hein.
Certaines pathologies, comme le diabète, nécessitent qu'on surveille bien les orteils. Attentivement, les orteils, les ongles, tout ça. Vous avez des soins particuliers pour ça ou
Alors oui, il y a d'ailleurs une prise en charge par la Sécu pour certains diabétiques, hein, ceux qui sont gradés 2 et 3. Donc le grade 2 qui a une prise en charge 5 fois dans l'année, le grade 3 donc c'est 8 fois. Et après, je pense que tout patient diabétique devrait consulter au moins une fois par an pour faire une séance de prévention et s'assurer que tout va bien au niveau de ses pieds, puisqu'il peut y avoir quand même des conséquences.
Oui, les diabétiques perdent la sensibilité et puis ont plus de difficultés à cicatriser. Donc,
exactement.
Ça peut complexifier un peu. Une toute petite plaie qui pourrait être bénigne pour n'importe qui peut vite se dégrader.
C'est ça. Ça peut prendre des proportions assez importantes.
Ouais.
On a parlé des sportifs aussi. Et puis, vous avez fait une formation spécifique en université pour ça. Qu'est-ce qu'on trouve chez le sportif?
Alors, chez le sportif, déjà tout ce qui est tendinite, hein, à différents étages. Après, les sports qui reviennent le plus, on a la course à pied. Donc, il y a beaucoup de problématiques chez le sujet qui pratique de la course à pied. Problématiques au niveau du genou, avec des pathologies bien spécifiques, syndrome fémoro-patellaire, des problèmes au niveau du ménisque, et j'en passe.
Et qu'est-ce qu'on va faire au niveau du pied s'il y a des problèmes de genoux?
Alors justement, c'est une très bonne question. L'objectif étant, avec le relief qui va être donné à la semelle, de modifier le positionnement du pied pour réaxer le genou, décomprimer le compartiment interne du genou ou externe inversement. Voilà.
D'accord. Je voudrais juste revenir sur les personnes âgées. Tout à l'heure, vous parliez des soins pour les patients diabétiques, mais souvent, à cet âge-là, ils ont des difficultés à se déplacer. Vous allez aussi à domicile. La séance à domicile sera la même que celle que vous faites en cabinet?
Alors oui, puisqu'on a une instrumentation qui est adaptée, qui est portative. Donc il est tout à fait possible de faire la même chose qu'au cabinet, oui.
Okay.
On n'a pas évoqué encore les évolutions de votre profession. Je crois qu'elles sont quand même assez nombreuses depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, il y a entre autres l'accès direct. Donc,
tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet accès direct?
En 2023, donc à partir de 2023, en tout cas, notre profession a beaucoup évolué. Donc en mai 2023, en fait, on a eu la possibilité d'être auto-prescripteur, donc notamment pour un patient qui venait pour un bilan podologique, si à l'issue du bilan on décidait de mettre en place une paire de semelles, il fallait les réorienter chez son médecin traitant ou son spécialiste pour avoir une ordonnance pour la prise en charge sécu. Là, c'est plus le cas. Nous, on peut rédiger cette ordonnance, donc ça simplifie beaucoup les choses et pour le patient, et pour le médecin, et pour nous-mêmes. Et puis après, donc, on a eu aussi la possibilité d'avoir une prise en charge sur les verrues plantaires. Elles étaient remboursées éventuellement par les mutuelles jusqu'à présent. Et là, du coup, sur la base de 4 séances, il y a une prise en charge qui est possible par la Sécu à 100%. Il y a eu aussi la mise en place d'un remboursement Sécu 100% pour 2 consultations chez la personne qui est atteinte d'un cancer et qui a un traitement, alors soit chimiothérapie, soit thérapie ciblée. Donc il y a une prise en charge avant le traitement et une prise en charge pendant.
Parce qu'il peut y avoir des soins particuliers à faire pour ces patients-là ?
Oui. Il y a des conséquences sur le pied, notamment le syndrome main-pied. Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Ok.
On se dit à tout à l'heure.
Dans 3-4 minutes.
Allez, ouais. Allez, on va s'écouter un petit temps musical et on revient vite vers vous. À tout de suite.
Sentez vos gelées d'ombre. Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes toujours sur Radio Calade, en notre compagnie, Santé Beaujolais d'Ombes, et vous venez d'écouter
The Bengals avec Walk Like an Egyptian.
Notre émission aujourd'hui est consacrée donc au métier des pédicures podologues. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, pédicure podologue, en fait c'est podologue.
Podologue, c'est une des deux branches.
C'est une des deux branches.
C'est une des deux branches.
Donc il faut parler podologie.
Alors oui, on parle de pédicurie, podologie, mais bon, c'est un petit peu long, donc souvent on tronque et on parle de la partie la plus noble, donc la podologie.
D'accord, c'est comme les masseurs kinésithérapeutes, quoi.
C'est un peu ça.
Okay.
D'ailleurs, donc, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour faire podologue ?
Alors du coup, donc c'est une formation sur 3 ans, le diplôme d'État. Entre mon époque, donc il y a une dizaine d'années, et puis maintenant ça a évolué. À mon époque, donc, il fallait faire en fait une prépa pour bachoter un petit peu, présenter un concours, et en fonction de son classement, on réussissait telle ou telle école, ou passer par une première année d'études de santé, une PACES. Et puis ensuite faire le cursus toujours avec les 3 ans. Et maintenant, on est sur un recrutement qui se passe par Parcoursup.
D'accord.
Voilà, donc sélection sur dossier. Par contre, on est toujours régi par un numerus clausus.
D'accord. Et par contre, par rapport à quand vous avez fait vos études, maintenant, il y a une école sur Lyon.
Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas d'école dans la région. Et donc là, il y a une école maintenant sur Lyon, l'école Rockefeller.
OK.
Numerus clausus d'installation ou de...
Il y a un numerus clausus, il y a un nombre de diplômés, il y a un nombre de places, en fait, d'entrée dans les écoles.
D'accord,
OK. Qui est prédéfini.
OK, mais pas d'installation. Vous pouvez exercer où vous voulez.
Oui.
D'accord, OK.
Il n'y a pas de zone surdotée comme les infirmières
non.
ou sous-dotées
non.
Ou
l'installation est totalement libre.
C'est bien.
Il en a de la chance. Il en a de la chance, le monsieur. Donc, en fait, maintenant, on va passer à notre deuxième chronique. Et en fait, on souhaitait savoir, ben, finalement, quand est-ce qu'il faut venir consulter?
Alors, il faut venir consulter, je pense, quand il y a une douleur. Hein. Ça, c'est très important parce qu'il y a des chances qu'elle ne parte pas spontanément toute seule. Quand il y a une gêne fonctionnelle, éventuellement à la marche. Quand il y a un aspect visuel différent de la normale. Je dirais que c'est ces trois grands principes qui amènent à consulter.
Vous parliez tout à l'heure de prévention, c'était pour les patients qui étaient cancéreux. Pour la personne âgée, il peut y avoir aussi une prévention à faire?
Alors oui, mais dans l'absolu pour tout le monde en fait.
Oui, il n'y a pas une consultation spécifique pour les personnes âgées comme pour les patients cancéreux, de se dire une fois par an, il faut au minimum venir voir si quelque chose ne va pas ou
non.
Ça n'a pas d'intérêt?
Non.
D'accord.
Est-ce qu'il faut passer par son médecin pour aller voir le pédicure podologue? Enfin, si j'ai une douleur, je vais d'abord voir mon médecin ou on peut aller vous voir directement
Là, en première intention, on peut consulter son pédicure podologue spontanément et ça ne modifie pas du coup la prise en charge puisqu'on est auto-prescripteur, donc zéro souci.
Je crois qu'il faut aussi insister par rapport à la personne âgée où le risque de chute est quand même réel avec des douleurs des membres inférieurs. Et donc la prévention passe aussi par vous?
Alors oui, elle passe par nous. En fait, on reçoit les patients âgés qui ont des troubles de la marche, qui ont un risque de chute. C'est souvent la mise en place d'une perte semelle orthopédique qui peut les aider, qui peut les stabiliser et limiter ce phénomène en fait.
On n'y pense pas souvent, ça. On demande des séances de kiné, mais...
Généralement, les kinés insistent quand même pas mal, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de contrefort, entre autres, hein, c'est-à-dire que si la chaussure est par exemple, non fermée,
oui.
C'est un risque de chute qui est évident, puisque le pied n'est pas stabilisé. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui adorent marcher en pantoufles ou en sabots ou je ne sais quoi.
En savates.
En savates, voilà. Et c'est vrai que c'est des risques de chute. Donc, oui, je crois que les deux professions ont certainement un rôle de prévention à jouer, justement, sur la protection du pied pour la marche, quoi, en tous les cas, d'une bonne stabilité du pied.
Ah oui, la perte semelle orthopédique a son intérêt, tout comme la chaussure.
D'ailleurs, les chaussures, elles sont prescrites par des médecins. Elles peuvent être prescrites par des médecins. Est-ce que vous avez le droit de faire ça, de prescrire
Alors,
ces chaussures?
Il y a deux grands types de chaussures orthopédiques. Il y a les chaussures orthopédiques sur mesure et celles de série. Celles qui sont faites sur mesure, donc c'est pour des pathologies qui sont quand même assez avancées, pour des pieds de Charcot, par exemple.
C'est-à-dire des déviations très prononcées.
Des déviations
hein,
très
on est
importantes.
Vraiment sur des articulations qui ont été déformées.
Un pied rhumatoïde, voilà. Et donc là, c'est en fait une prescription qui doit venir, à mon sens, d'un médecin spécialiste. Mmh. Je crois que le médecin généraliste n'est même pas apte à pouvoir prescrire ça. Par contre, le podologue, depuis peu de temps, peut prescrire une paire de chaussures orthopédiques de série. Ça, c'est tout à fait possible.
Très bien. Parce que justement, parfois, on est obligé de dire aux patients d'aller voir le médecin pour faire prescrire justement cette paire de chaussures, alors qu'il voit le podologue tous les 2-3 mois et que c'est l'occasion du coup de demander une ordonnance pour ça.
Ah oui, ça simplifie les choses.
Oui, c'est sûr.
Il y a une chose que peut-être qu'on va répéter, vous l'avez dit, mais je crois que ça vaut le coup de le répéter, c'est la notion d'inflammation du pied. Il n'y a pas que la douleur.
Alors oui, on peut avoir une inflammation du pied. Par exemple, s'il y a un hyperappui, sans forcément qu'il y ait un durillon d'ailleurs, on peut avoir du coup une inflammation et une douleur associée par frottement. Donc là, l'intérêt, ça va être de faire un bilan podologique et puis de mettre en place une paire de semelles pour répartir les charges, quoi.
Donc le bilan podologique, le patient vient et c'est vous qui le faites, sans, pareil, tout, comme tout à l'heure, sans ordonnance, c'est ce qu'on disait.
Exactement.
Tout à l'heure.
Exactement. Donc en fait, on analyse sa marche, on regarde ses empreintes sur différents instruments. Donc on a le podoscope, du coup, qui permet de faire un premier diagnostic du type de pied du patient. Après,
Un podoscope. Donc, c'est une plateforme.
C'est une plateforme,
où
exactement.
On met ses deux mains, c'est ça.
C'est ses oreilles.
En fait, c'est un miroir qui est rétroéclairé, ouais, et qui permet de visualiser les zones d'appui.
D'accord.
Okay. Donc après, il y a un autre examen qui est un petit peu plus récent, qui a été mis au point, qui est la plateforme de pression, la plateforme baropodométrique, qui, elle, synchronise la répartition de la charge. Donc l'outil d'analyse est un petit peu plus fin.
Par des récepteurs, j'imagine, électriques, avec une micro-circulation électrique.
Par des petits capteurs qui sont sensibles au poids du patient.
Du, ouais, patient, d'accord, ok. Et là, vous arrivez effectivement à non seulement interpréter, à bidenter, mais c'est surtout à construire une semelle qui est vraiment du sur-mesure, pratiquement. Enfin,
oui, c'est
au plus près du patient. Quoi.
Tout à fait.
C'est pas une seconde peau, mais...
Et c'est souvent aussi un outil qui conforte ce qu'on a vu jusqu'à présent, notamment sur des problématiques d'hyperkérato sur un durillon. Eh ben, on voit souvent les zones qui sont matérialisées en rouge, qui matérialisent vraiment l'hyperappui. Donc, ça permet de vraiment faire une semelle adaptée, oui.
On n'en a pas parlé, mais on va peut-être le dire parce que c'est toujours sympa de le savoir. Une semelle, ça dure combien de temps?
Alors, la sécurité
sociale... Parce que parfois,
sociale...
moi, je vois des semelles qui ont... Oula.
c'est un temps défini, le oula.
Parfois, elles sont même plus âgées que le patient.
Alors, sur la prise en charge du coup Sécu, on est sur une prise en charge annuelle. Bon, sachant que la prise en charge Sécu n'est qu'une faible partie du montant global. Hein. Mais voilà, prise en charge une fois par an. Après, ça dépend vraiment du poids du sujet, du type de pathologie qu'on a, des matériaux qui sont utilisés, qui peuvent être plus ou moins denses, est-ce qu'il y a une résine ou pas. Voilà, 2 ans, ça me semble être un peu la moyenne.
Mais après, pour les enfants, non, c'est pas mal non plus, voilà, parce que les pieds grandissent et qu'ils sont...
Alors, chez les enfants, on a même une prise en charge, du coup, chez l'enfant de moins de 15 ans, tous les 6 mois.
OK.
Alors, du fait, pas forcément de l'usure de la semelle, mais du fait du changement de pointure.
Mmh.
Et oui.
C'est ça.
Avez-vous d'autres questions, mesdames?
Pas pour l'instant. Non, c'est OK.
Eh bien, écoutez, on se refait une petite séance musicale et puis on revient très vite.
Santé Beaujolais d'Ombe.
Use my hands for everything with fearing. Can't stop the you. This life is more than just a read-through.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes toujours en notre compagnie, Santé Beaujolais d'Ombe, et vous venez d'écouter...
Can't Stop de Red Hot Chili Peppers.
Je vous le rappelle, mais vous connaissez la phrase par cœur. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombe, ainsi que sur notre chaîne YouTube. On va passer à la troisième chronique et on va s'intéresser donc à la consultation qu'on va diviser en deux temps. Et on va tout d'abord parler de la consultation de pédicurie. Comment ça se passe ?
Alors, quand le patient arrive, souvent on commence par remplir le dossier patient. Hein, et puis après, tout de suite, s'enchaîne sur le motif de consultation. Quel est l'endroit de la douleur ? Depuis quand ? Est-ce qu'il y a une boîterie associée ? Et puis après, donc, du coup, dans la foulée, on s'installe dans le fauteuil patient. Et puis du coup...
Le fauteuil qui peut aller très très haut.
Qui peut aller très très haut, exactement.
Faut pas avoir le vertige.
C'est pas le même fauteuil que chez les dentistes, au moins, non.
Non, mais il s'en rapproche.
Ah oui, il faut une grande hauteur sous plafond.
À ce point-là.
Non, mais c'est vrai, ça monte haut quand même.
Ah oui, ça monte très haut, ouais.
Oui, parce que les pieds sont à peu près à la hauteur de vos yeux, quoi.
Ah oui, absolument, enfin...
Ah oui, bah oui.
Donc,
ça monte à 1m50, si c'est pas plus, oui.
Ouais.
D'accord, ok.
Donc du coup, notre patient est assis dans son fauteuil hein, électrique. Donc après, on a le poste de soins avec la lampe qui nous éclaire. Donc une lampe qui est souvent cyalytique, comme chez les dentistes d'ailleurs. On a une instrumentation qui est très proche des dentistes. On a toute l'instrumentation rotative avec la fraise, le micromoteur, la seringue, voilà.
Donc du matériel qui coûte cher, entre guillemets.
Du matériel qui est assez onéreux, oui. Ouais. Oui, oui.
Il n'y a pas d'anesthésie comme chez les dentistes, par contre ?
Non. Non, non, on ne peut pas anesthésier pour l'instant. Ça viendra peut-être dans les années futures, mais non, pour l'instant, on ne peut pas.
Ce qui est peut-être dommage, non ?
Non.
Pour comme ça. Non, restez, je plaisante.
Absolument, pour traiter un ongle incarné bien, bien douloureux, on apprécierait d'avoir une anesthésie possible du pied de nos
locale, patients. Ou une anesthésie locale, peut-être, avec à base de crème ou de ce qu'on sert pour les vaccins ou des choses comme ça. Ce serait bien que vous puissiez prescrire ça, par exemple.
Ouais, le mieux serait une anesthésie locale.
Oui.
Mmh. Ouais.
Donc on ne va pas donner envie aux auditeurs d'aller chez le pédicure podologue.
Oui, mais quand il faut,
autant
il
que
faut.
D'aller chez le dentiste.
Non, mais...
quand il faut, il faut.
Ça, je ne sais pas non plus.
Donc l'instrumentation, vous disiez, et puis... Et du coup, ça se passe comment vous y prenez ?
Alors, sur l'instrumentation, on n'a pas tout à fait fini. On a aussi donc, la pince à ongles, le bistouri, bien souvent la gouge.
La gouge, c'est quoi ?
Alors, la gouge, c'est un petit instrument qui est une lame qui fait un peu comme un tunnel et qui va pouvoir enlever notamment un corps ou dégager un sillon au niveau d'un ongle. Donc, voilà. Donc, après, du coup...
Et après, on a la scie.
Et après, on a la scie.
Le marteau, tout ça.
Je plaisante encore, je plaisante. Allez-y,
continuez. Donc du coup, après, le soin se déroule dans le fauteuil, oui.
Là, donc du coup, vous limez ou vous fraisez, je ne sais pas comment on dit.
Oui, on fraise, ouais.
D'accord. Et une fois que vous avez terminé, vous faites quelque chose, je crois.
Alors souvent, on termine par un petit massage, oui.
Ouais, pour réconforter les patients.
Exactement. Avec une crème hydratante adaptée.
T'as pas ça chez le dentiste ?
Non.
Voilà. Massage des gencives, non.
C'était difficile de répondre.
Voilà.
Oui, de toute façon.
C'est ça. C'est okay. Ça.
Donc, ça, c'est ce qui concerne la pédicurie.
Absolument.
C'est l'essentiel de votre travail sur ce plan-là ?
Oui, ça représente 50% de notre activité.
D'accord, donc c'est quand même une activité effectivement importante. Et puis après, on a la podologie.
La podologie, voilà, qui vient compléter la pédicurie, qui sont vraiment deux parties.
Qui vient compléter.
Absolument.
D'accord, pouvez nous en dire plus ?
C'est ce qu'il disait tout à l'heure, je crois, non ? C'est que
ça
limite les durées,
un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait de répartir un petit peu les charges.
Et pour la podologie, du coup, vous utilisez les instruments dont vous parliez tout à l'heure pour prendre des empreintes, en fait, c'est ça ?
Voilà, donc le fameux podoscope.
Ouais, on y revient.
La plateforme de pression, du coup, plateforme baropodométrique. Après, le tapis de course. Donc, quand on a un patient qui est sportif, qui fait notamment de la course à pied pour analyser sa foulée, pour du coup analyser le défaut qu'il pourrait y avoir au niveau de la foulée et puis du coup le corriger par le biais de la semelle. Ça peut être éventuellement filmé par une caméra, du coup.
Pour donc, c'est le déroulement du pied qui vous intéresse, j'imagine.
C'est le positionnement du pied quand il atterrit au sol.
Ouais.
Voilà. Et puis, alors après, on regarde aussi tout ce qui est en fait postural, à la fois au niveau du pied, mais aussi on regarde un petit peu plus haut, donc le genou, notamment la notion de genou arqué ou de genou en X, donc la notion de genu varum ou genu valgum.
Valgum.
Et puis les troubles rotationnels éventuellement au niveau de la hanche. Ça, on l'analyse aussi à la marche, quand on voit qu'il y a un angle du pied, on appelle ça l'angle de Fick, qui peut être fermé ou ouvert. Ça peut éventuellement être un signe d'arthrose de la hanche ou d'autres pathologies de la hanche. Et puis après, on termine souvent le bilan podologique par une analyse du dos pour être sûr que du coup, il n'y a pas de scoliose, par exemple, parce que le podologue peut agir toujours par le biais de la semelle orthopédique sur la mise en place d'une compensation, une talonnette intégrée à la semelle pour limiter la réversion de la scoliose dans le temps. On peut traiter aussi tout ce qui est hernie discale, sciatique.
Un membre plus court que l'autre aussi.
Absolument. Quand il y a une illimie, une inégalité de longueur de jambe.
Alors, on en avait parlé en préparant notre émission, justement. Oui. L'inégalité de jambe, la grande discussion sur l'inégalité. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, on est toujours un petit peu limité au cabinet, puisque du coup, on ne peut pas faire de radio. Faut à ce moment-là qu'on fasse un petit courrier au médecin et que le médecin prescrive. Donc, on ne peut pas aller au bout du processus. Par contre, on regarde ça à l'œil nu. Si la différence est notoire, il y a peu grand doute. Donc, on le corrige ou pas en fonction de la symptomatologie du patient, quoi.
Mais l'idée reçue des centimètres, de 1,5 cm ou 2 cm en dessous, on ne corrige pas. C'est quoi
Alors, je crois qu'en France, on commence à corriger quand on est au-dessus d'un centimètre de différence de longueur de jambe. Et souvent, on corrige de la moitié pour ne pas mettre trop en porte-à-faux, parce que si on passe de pas de correction à beaucoup, ça fait trop.
Mmh. On est bien d'accord.
Là, au niveau de la semelle, vous les faites, c'est ça ?
Alors oui, absolument. Donc il y a différentes techniques qui sont possibles. Bon, pour faire simple, il y a les semelles qui sont classiques, qui sont des matériaux qui sont collés les uns sur les autres. On a les semelles thermoformées, donc qui sont formées par la chaleur, avec une vitropresse. Voilà, les semelles ont toutes les deux le même type de relief. On a aussi de nouvelles techniques qui sont arrivées avec les semelles qui sont fraisées en trois dimensions ou les semelles qui sont imprimées en trois dimensions. Donc là, c'est vraiment très précis, puisque du coup, c'est le numérique qui prend la main.
Hein. D'accord.
C'est-à-dire que vous avez des imprimantes 3D ?
Oui, alors l'imprimante 3D n'est pas chez le podologue, parce que l'investissement, il est extrêmement onéreux.
Ouais. Colossal.
Mais du coup, on a des sociétés spécialisées dans la fabrication de semelles orthopédiques qui font du sur-mesure, et notamment de la fraiser et de l'imprimer 3D.
C'est vous qui envoyez toutes les mesures que vous avez prises, ou vous dites « je veux ça à tel endroit, ça à tel endroit » Comment ça se...
En fait, on définit notre traitement, mais après, il est basé sur la prise d'empreinte de notre patient. Donc, on a la main mise pour modifier le relief à tel ou tel endroit. La perte semelle orthopédique est vraiment un travail sur mesure et adapté aux patients, quoi.
Oui. Quand vous recevez les semelles, est-ce que ça vous arrive de réintervenir dessus avant de les mettre aux patients, si vous vous rendez compte que ben, finalement, peut-être qu'à cet endroit-là, c'est un peu douloureux quand ils les mettent ou,
Absolument. De toute façon, quand un patient arrive au cabinet pour le rendu des semelles, il y a un essayage qui est fait. Si le premier ressenti n'est pas bon, souvent on reprend. Donc on modifie à l'endroit où ça peut gêner, blesser. Voilà. On peut reprendre le biseau, le débord, éventuellement la longueur de semelle. Ça peut arriver que ce soit un petit peu trop grand par rapport à la chaussure. Tout est repris et ajusté le jour J.
Et cerise sur le gâteau, je crois que les enfants peuvent choisir des couleurs.
Ah oui, ça arrive.
Ça aide à accepter la semelle dans la chaussure.
Le côté thérapeutique de la chose.
Ouais.
C'est sympa.
Oui, tu peux pas faire ça chez le dentiste non plus.
Non, c'est vrai que... Voilà. Vous mettez une dent noire.
On s'excuse auprès des dentistes. Hein.
Non, mais les dentistes sont très bien. Hein.
Non, on va inviter des chirurgiens dentistes Il faudrait qu'on le fasse.
On a refait déjà. Oui, on avait fait une émission avec l'un d'eux.
Oui. Exact. Ouais, oui. Exact. Voilà.
Moi, j'avais une question au niveau des semelles dans les chaussures. Si on a plusieurs chaussures, enfin, elles n'ont pas forcément les mêmes formes et autres. Est-ce qu'on peut, quand on porte des semelles, se passer de semelles pendant un temps? Est-ce qu'il faut plusieurs... Il faut se cantonner à une seule paire de chaussures?
Ça dépend des pathologies. Si c'est des pathologies qui sont sportives, qui ne se manifestent pas du coup dans la vie de tous les jours, il n'est pas impossible que la semelle orthopédique soit apportée uniquement dans le cadre du sport. Donc là, ça se passe plutôt bien. Si par contre, il y a une indication au port de semelles dans les chaussures de ville et les chaussures de sport, là, c'est plus compliqué. C'est vraiment des matériaux qui sont différents, donc il faut faire deux paires. Ou faire une paire cette année, puis différer, du coup, faire une deuxième l'année d'après par rapport à la prise en charge sécu. Hein, il n'y a qu'une prise en charge par an. Donc là, c'est la difficulté qu'on peut rencontrer. Pour autant, on est un petit peu gêné, effectivement, chez les femmes, avec des chaussures qui peuvent être vraiment différentes. Entre la ballerine, l'escarpin ou une paire de sneakers, ouais, les formes ne sont pas du tout les mêmes. Donc on essaye de faire un juste milieu un peu entre tout ça.
On n'en a pas parlé, mais justement, puisqu'on parle d'escarpin, il paraît que ce n'est pas bon du tout pour le pied, ça.
Ah, bah, ça surmène un petit peu beaucoup tout l'avant-pied. Donc effectivement, ouais, c'est un petit peu surmener les orteils et toute cette zone-là.
Donc on évite quand on a mal au pied, quoi.
À porter à bon escient, en soirée.
C'est ce que je ferais. Dès à présent.
J'ai hâte de te voir en escarpin.
On se retrouve dans un tout petit instant, cher auditeur. Si vous voulez faire un petit pissou, c'est maintenant que ça se passe. A tout de suite.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Different kinds with different ways. It will take a lifetime to explain. Now I won't say. Isn't she two different people with two separate lives? And you put the two together, you get a spectacular surprise. You got the different kind with different ways. It would take a lifetime to explain. Now I won't say, hey. Oh yeah, once in a while I'll be back.
about the world in which I live today, of animals and plants and nature's gifts set on display. But the most amazing thing that I've seen in my time are all the different people and all the different minds and different ways.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes bien sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Different People de No Doubt.
Nous avons vu que votre profession est très large dans ses compétences soignantes, mais vous avez aussi vos limites et des limites importantes. Pouvez-vous nous
pouvez-vous nous en parler ?
Merci.
Mais s'il y a un problème d'orthophonie, je suis là.
Chers orthophonistes, bonjour.
Alors oui, il peut y avoir des limites si du coup on a une hypothèse diagnostique qui nécessite éventuellement une imagerie, radio, IRM, scanner ou autre. Il faut automatiquement rediriger vers le médecin qui est le seul habilité à pouvoir prescrire ce type d'imagerie. Donc voilà, ça peut être éventuellement pour...
Quel type de pathologie nécessiterait par exemple une IRM ou des choses comme ça ?
Ou si on a une suspicion de hernie discale, par exemple, ou une suspicion de scoliose, ou une prothèse qui aurait bougé, ça peut être une chirurgie d'hallux valgus où il y aurait une vis, ça m'est déjà arrivé, une vis qui engendrerait un corps infecté. Donc là, il y a un recours chirurgical, mais bon, il faut faire une radio du coup pour s'en assurer.
Et oui.
Rediriger vers le médecin qui va rediriger du coup vers le chirurgien orthopédiste qui a fait l'opération pour le coup. Alors après, ça peut être aussi sur des diagnostics bien précis, en dermato par exemple, si on a une suspicion de mélanome, carcinome, bande mélanique au niveau de l'ongle.
Vous avez dit mélanome, carcinome, mais...
Une bande mélanique.
Qu'est-ce donc ?
C'est, pour faire simple du coup, le grain de beauté de l'ongle. En fait, c'est une bande noirâtre, grisâtre, longitudinale, qui est en fait potentiellement cancéreuse. Donc,
c'est comme un mélanome de l'ongle, en fait, c'est ça. D'accord.
C'est ça.
Oui, parce qu'on peut avoir des mélanomes et des carcinomes entre les orteils aussi.
Alors,
et sur l'ongle,
oui,
et entre les orteils.
Là, c'est un grain de beauté, un grain de beauté qui dégénère. Oui. Mais il peut y avoir une atteinte aussi au niveau de l'ongle.
D'accord. C'est pas un endroit où on regarde spécifiquement pour surveiller des grains de beauté les patients peuvent ne pas voir aussi. S'ils sont...
Exactement, c'est là où le podologue a vraiment un rôle important, sur la prévention du risque de cancer de la peau. Par rapport à tout ce qu'on peut dépister, notamment au niveau du pied. Alors après, ça peut être aussi une problématique chirurgicale, notamment pour des ongles incarnés qui n'arrivent pas à être traités classiquement au cabinet. Du coup, on doit rediriger vers un chirurgien orthopédiste ou un chirurgien laseriste, puisqu'il y a pas mal d'opérations d'ongles incarnés qui se font au laser maintenant. Donc là, pareil, il y a une redirection qui doit se faire, quoi.
Est-ce que ça peut concerner aussi les mal perforants plantaires des patients diabétiques vous pouvez peut-être pas agir sur tous
Alors, on essaye de faire au mieux en collaboration avec les infirmières, parce que du coup, la prise en charge du mal perforant plantaire ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des pansements. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une prise en charge du coup du patient de manière très régulière en fonction de la plaie.
Vous ne pouvez pas faire d'ordonnance pour que les infirmières fassent les pansements. Du coup, il faut repasser par le médecin pour refaire une ordonnance.
Mais sur des maux perforants plantaires qui sont bien avancés, souvent la prise en charge, elle est hospitalière.
Oui, c'est pas suffisant, oui.
Oui, et puis en fait, à l'hôpital, on a bien souvent un service diabéto avec une infirmière spécialisée en diabéto qui d'ailleurs peut faire parfois le travail un petit peu du pédicure, hein, un podologue, pour enlever la corne, la fibrine, etc., qui peut être présente. Et du coup, dans la foulée, il y a le médecin qui supervise ça, et l'infirmière après qui peut faire son pansement, donc la prise en charge est quand même bien meilleure.
Oui, et du coup, on peut conseiller, plus que conseiller aux patients diabétiques, de ne pas marcher pieds nus chez eux.
Ah, mais ça, on est bien d'accord.
Vous avez parlé des ongles incarnés et de la découpe laser.
Oui.
On peut dire ça comme ça, voilà.
Oui, une chirurgie au laser.
Une chirurgie au laser. Elle se fait avec quelle spécialité ?
C'est un médecin laseriste, en fait. Hein.
D'accord.
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres appellations. Ouais.
Ok, d'accord.
C'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui font ça.
On en a sur le territoire ou
oui.
pas ?
Oui.
D'accord, ok.
On en a sur le territoire. Oui, ça nécessite d'avoir le laser, en fait, donc c'est pas n'importe qui le fait.
C'est ça, tout à fait. Mais c'est déjà bien de savoir que ça existe sur le territoire.
Oui, puisque c'est une technique qui est quand même beaucoup moins invasive. Donc moi, ça m'est arrivé de l'indiquer, notamment pour des patients qui sont atteints de cancer, qu'une faible immunité, et donc on peut pas se permettre de faire un acte qui est trop invasif, avec un risque infectieux... Donc, dans certains cas, l'opération au laser a son sens.
Donc, dans ces cas-là, parlez-en à votre médecin traitant. Et si votre médecin traitant ne connaît pas de professionnel de santé qui traite avec cette technique, à ce moment-là, qu'il se retourne vers la CPTS et on pourra donner les coordonnées, par exemple.
Oui, d'accord. Okay, pas de souci.
Page suivante.
Il y a aussi des limites administratives, vous disiez ?
Alors, oui, tous les diabétiques ne sont pas pris en charge par la Sécu. C'est une fausse information qui a été bien souvent trop véhiculée auprès de la population. Donc, voilà, c'est que les grades 2 et 3.
C'est des stades qui sont plus avancés, en fait, ou ça dépend des traitements ?
Oui.
2, 3 et 4, j'imagine, non ?
2 et 3, ça ne va pas à 4.
Ah bon, le diabète va
non,
pas
c'est
à 4.
Zéro, c'est ça
zéro, ah oui, c'est 0, exact. Oui, oui, zéro, oui désolé. 0, 1, 2, 3.
Donc, c'est des patients souvent qui ont une neuropathie, qui ont des déformations au niveau des pieds, des plaies, qui ont déjà eu des amputations au niveau des orteils ou plus.
Ouais.
Donc, c'est des cas souvent assez lourds.
Oui, parce qu'une plaie mal soignée chez un diabétique peut conduire à l'amputation.
Ah oui.
Et là, on est trois à vous le dire, hein, pour le coup.
Soignez vos pieds si vous êtes diabétique.
Exactement, tout à fait. Et la limite organisationnelle, donc je crois que vous êtes une profession qui est pratiquement uniquement libérale.
Ah oui, à mon sens, je crois qu'on doit être peut-être 98% exercé à titre libéral. Donc l'activité salariée est extrêmement minoritaire. Il y a quelques postes dans certains hôpitaux qui sont bien souvent plutôt des hôpitaux gériatriques. Mais c'est tout.
Donc c'est plutôt des pédicures podologues libéraux qui interviennent à l'hôpital ou en EHPAD
Oui,
ou,
absolument.
Et au niveau de vos honoraires, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des honoraires qui sont prédéfinis par la Sécurité sociale ou est-ce que vous
Alors,
avez des honoraires libres ?
Nos honoraires sont libres, sauf pour certains motifs où on ne doit pas faire de dépassement d'honoraires puisqu'il y a une prise en charge 100% sécu, c'est pour les diabétiques grade 2-3, justement, et pour la prise en charge oncologique récente, là, sur la base des deux séances.
Et les verrues plantaires aussi.
Et les verrues plantaires, exactement. Mmh. C'est les trois...
Oui, sinon, après, c'est des honoraires libres en fonction du praticien, quoi.
C'est ça.
Mmh. OK. On va conclure ?
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
J'attendais le jingle, en fait.
Amaury !
C'est comme Amaury s'est endormi, on l'a réveillé. Désolé. Alors, pour conclure, bien écoutez, en tous les cas, on retiendra que la profession de pédicure-podologue est un acteur, évidemment, clé de la santé au quotidien. Elle ne s'occupe pas que des ongles, mais va toucher à l'entièreté du pied. Les douleurs, la posture, les semelles, les ongles incarnés, les verrues, la prévention des chutes chez les personnes âgées, comme on l'a vu, mais aussi le suivi des enfants, des sportifs, des patients diabétiques. Vous avez donc un rôle qui est à la fois préventif, thérapeutique, et qui est aussi en lien, comme on l'a vu à l'instant, avec les autres professionnels de santé.
Et en tous les cas, on peut vous remercier de nous avoir éclairés sur nos pieds. On a pris une heure de plaisir.
On se calme.
Je me calme.
Un autre jeu de mots.
C'est Noël. Donc voilà, en tous les cas, un grand merci à vous. Si vous avez manqué le début de l'émission, la journée est longue. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site internet de Radio Calade, de la CPTS Beaujolais d'Ombes et sur la chaîne YouTube. Nous, en attendant, on va se dire même heure, même endroit.
Dans un mois. Avec
une émission autour de l'épilepsie.
Et on connaît le sujet. À vous tous. Écoutez, à très bientôt. Et
merci Rémi.
Merci Rémi.
Merci à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.